pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathan, je suis un des responsables ici à Fireplace. Et donc voilà, je vais vous apporter le message ce matin. Et pour donner contexte, avant de donner contexte, je voulais juste saluer un ami à moi, Régis Perrin, qui donc est un des responsables de l'Union d'Églises France pour Christ. Et on se connaît à travers divers échanges quand on se croise dans des réunions du CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France. Et donc, c'est vraiment une joie. Tu viens d'église dans l'Est de la France, sans doute assez différente de nous. Et donc, il y a aussi cette volonté de pouvoir nous rapprocher les uns les autres, nous connaître les uns les autres au sein du monde évangélique. C'est vraiment une joie. Soyez vraiment les bienvenus. Régis et Myriam. Vraiment, c'est très, très sympa de venir nous voir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Donc voilà, je voulais vous saluer particulièrement. Et donc, pour contexte, on est dans une série de messages sur le Saint-Esprit. Je comparerai un petit peu cette série de prédications à des recettes. Récemment, avec mon épouse, par pure flemme peut-être, ou peut-être par volonté de manger plus sainement et plus équilibré, on a commencé à utiliser un service où ils nous livrent nos repas avec une recette qui est déjà là, toute faite. Tous les produits sont dans le panier. Et les recettes sont intéressantes parce que c'est très varié. Il faut vraiment bien travailler les légumes et il faut bien travailler la viande. J'ai l'impression que cette série de prédications me rappelle cette préparation de repas, où tantôt il y a des semaines où, pour vous dire, la première semaine, Georges nous a parlé de façon plus générale de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit, une sorte de grand contexte théologique. C'est comme si on avait fait quoi ? On avait lu la recette. Quels sont les ingrédients qui sont dedans ? Comment ça marche ? Quel type de poêle est-ce qu'il faudra qu'on sorte ? Quel type de casserole est-ce qu'il faudra qu'on ait ? Et puis ensuite, on a parlé de choses qui concernent vraiment notre vie personnelle, le Saint-Esprit avec nous personnellement. On a parlé de la plénitude du Saint-Esprit avec David. Et puis j'ai parlé de vivre la présence de Dieu au quotidien, dans ma vie quotidienne. Et c'est comme si on préparait les légumes. Et puis on parle d'eux, on les prépare, on les coupe, etc. On commence à les mettre à frire. Et puis on a embrayé le dimanche suivant sur comment vivre la présence de Dieu, non pas dans ma vie personnelle, mais de la vivre dans l'Église rassemblée. De la vivre quand l'Église se rassemble et qu'on vit la manifestation et la présence du Saint-Esprit avec nous, tous ensemble, rassemblés. C'est comme si là, on commençait à préparer la viande et puis on parlait de ces éléments un peu plus de l'aspect visible de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit, notamment dans l'Église. Et puis, les dimanches suivants, on a eu John et puis on a eu Calvin qui ont parlé du fait que l'Esprit est un esprit qui est saint dans ma vie et dans l'Église aussi, mais que c'est quelque chose d'intérieur. On a parlé de marcher par l'Esprit, de se laisser conduire par l'Esprit. C'est comme si on retournait aux légumes, hein, puis on retravaille un petit peu le côté individuel, personnel, comment le Saint-Esprit me travaille, me transforme. Et ce dimanche, et pour les deux dimanches qui viendront ensuite, on va recommencer à parler de la viande. On va commencer à la faire frire, on va commencer à la faire dorer, on va la mettre de côté, on va en récupérer le jus, on va en faire une bonne sauce, etc. pour aller avec. Parce qu'on va reparler pendant les trois prochains dimanches, à nouveau, de comment le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de l'Église rassemblée. On va parler de ce que la Bible appelle les dons spirituels. On va parler aujourd'hui des dons de révélation, j'expliquerai ce que c'est. Et puis le dimanche suivant, on va parler des dons de langue, et parler en langue et interprétation de langue. Enfin, pas le dimanche suivant parce qu'on est, on fête Pâques, c'est à la cité, mais le dimanche d'après. Et le dimanche après ça, on va parler miracle, foi, guérison, les dons de puissance. Mais après ça, on va conclure la série en revenant aux légumes, en finalisant le plat de légumes, en parlant du fruit de l'Esprit, ce que le Saint-Esprit travaille en moi pour me transformer. Et donc David, principalement, va nous emmener dans trois messages sur le fruit de l'Esprit. Ça vous donne une vue d'ensemble de ce que la série a été jusqu'ici, de là où va la série après, de là où on se trouve aujourd'hui. Et donc on va parler des dons de révélation, et donc je vais lire le même texte que Rebecca a lu ce matin, pour introduire notre temps de culte ensemble, 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et jeudi dernier, on était en réunion de prière et Georges a eu une image. Et je pense que c'est une image pour nous en tant qu'église. C'était l'image d'un jardinier qui entrait dans le jardin avec beaucoup de travail à faire. Et en entrant dans ce jardin, il a commencé à se mettre à l'œuvre pour travailler son jardin, mais il l'a fait avec ses mains et sans les outils. Et c'était un travail qui était difficile. C'était un travail où il s'est sali et il l'a fait de façon non nécessaire parce qu'il se trouvait qu'alors qu'il entrait dans le jardin, il avait des outils et qu'il les a ignorés et qu'il ne les a pas utilisés. Et je pense que c'est une image pour nous aussi en tant qu'Église. Nous pouvons tellement souvent passer à côté des outils que Dieu nous donne. Hein? Et donc la question, Brett parlait de passer de consommateur à contributeur. Et la question principale, c'est comment est-ce que je contribue à l'œuvre de Dieu dans l'Église? Et on pourrait imaginer toutes sortes de choses. On pourrait inventer toutes sortes de choses. On pourrait nous faire nos propres idées avec notre propre sagesse en nous faisant notre idée de ce à quoi l'Église devrait ressembler. Mais comme on l'a déjà vu il y a de ça quelques semaines, quand on a parlé de la présence de Dieu dans l'Église rassemblée, Dieu nous a dit comment il aimerait que chaque personne dans l'Église contribue. Comment chacun d'entre nous pouvons contribuer à l'œuvre de Dieu. Donc certaines personnes, les anciens dans l'Église, ont une responsabilité pour définir et pour enseigner la doctrine dans l'Église. C'est quelque chose qui est pour certains seulement et pas pour tous. C'est une bonne chose que ce soit comme ça. En revanche, il y a des choses qui sont pour absolument tout le monde. Hein? Le fait de contribuer, et selon la Bible, c'est à travers les dons spirituels que nous contribuons tous dans l'Église. Et je trouve ça intéressant que dans mon contexte, avec beaucoup de gens avec qui j'ai des conversations, j'ai l'impression que tous, on aime avoir notre mot à dire, etc. On y vient tous de nos petites opinions par rapport à la doctrine et à l'enseignement. Par contre, quand ça en vient à exercer les dons spirituels, ça ne se bouscule pas au portillon. Alors que selon la Bible, c'est peut-être plutôt une dynamique inverse où l'outil que Dieu donne à chacun d'entre nous pour contribuer dans la vie de l'Église est bien plus l'exercice de la prophétie, l'exercice des paroles de sagesse, l'exercice du parler en langue, l'exercice de l'interprétation des langues, imposer les mains à ceux qui vont mal, prier pour eux avec une foi pour que Dieu intervienne dans leur vie, voir des miracles, voir des guérisons. Ce n'est pas des choses qui sont réservées aux pasteurs dans l'Église. Alors que tellement souvent, on s'est dit, ce genre de choses-là, c'est pour les super spirituels, c'est pour ceux qui ont une formation, c'est pour ceux qui savent bien parler sur une scène, c'est pour ceux qui portent un costard-cravate, c'est pour ceux qui crient feu dans un micro, et c'est pas comme ça. C'est quelque chose qui est à disposition de tous. Et donc, nous pouvons inventer comment nous devrions tous contribuer à l'œuvre de Dieu dans l'Église, ou nous pouvons écouter Dieu et nous mettre à le suivre et à agir de cette manière-là. Donc j'aimerais donner une image, une illustration. Pour ceux qui sont à Fireplace depuis longtemps, vous l'avez déjà entendu, c'est pas grave, vous le réentendrez. Un culte charismatique. Pourquoi j'utilise ce mot? J'avais parlé il y a de ça quelques semaines du fait que quand la Bible parle de ce à quoi ressemble le rassemblement de l'Église, selon la Bible, est un moment qui est participatif et un moment où les dons spirituels sont exercés. Hein, c'est ce qu'on voit de façon omniprésente dans la description du culte dans le Nouveau Testament. Et il me semble que la meilleure image pour le culte charismatique, c'est une agape. C'est un repas partagé. Parce que parfois, quand on pense aux dons spirituels, on pense « Dieu me donne des aptitudes à moi pour que je puisse me dire « Je sais prophétiser, je sais parler en langue, j'ai reçu ce don, c'est génial pour moi. » Et non, j'ai reçu ce don peut-être, mais que ce soit génial pour l'Église. Parce qu'à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Et donc, l'image de l'agape devient intéressante dans ce cadre-ci, parce qu'une agape, c'est quoi? C'est un repas partagé où tout le monde apporte quelque chose, et quelque chose de différent. Et admettons que moi, j'arrive à la gap, et aujourd'hui, c'est moi, j'ai ramené le pain, j'ai ramené la baguette, et j'arrive, je suis, c'est moi qui ai le pain, et j'ai mon pain, et je mange le pain, et c'est moi qui mange tout mon pain, parce que c'est moi qui ai le pain. Le pain, c'est moi qui le reçu, il est pour moi. Et à côté de moi, j'ai quelqu'un qui a du vin. Et lui, il se dit, ouais, moi, je suis la personne en mode vin, tu vois, moi, dans l'église, c'est moi qui ai le vin. Et il boit tout le vin. Et il prend pas du tout du pain. Ça n'a absolument aucun sens de voir les dons spirituels comme ça. Alors que le pain, le vin et le boursin sont appelés à être apportés les uns par les autres pour être contribués par quelqu'un pour tout le monde. Hein? Et donc, lorsque l'Église vient et que je viens avec quelque chose et que je le mets à contribution de tous et que les autres viennent et ils le mettent à contribution de tous, il y a un repas qui est riche. Et lorsque les dons spirituels sont exercés dans l'Église de façon usuelle, de façon habituelle, alors c'est Dieu qui agit dans son Église, par son Esprit, pour son peuple. Et je sais que ça ressemble pas à ce dont on a toujours eu l'habitude. Quelle que soit la tradition de laquelle vous avez l'habitude, que ce soit une tradition des premiers, qui soit très traditionnelle, très liturgique, que ce soit une tradition qui est très centrée sur la personne du pasteur, quelle que soit la tradition de laquelle on vient, ce n'est pas quelque chose qui est toujours habituel pour nous. Peut-être que c'est la première fois que tu viens dans une église aujourd'hui et tu étais un peu surpris que différentes personnes interviennent à différents moments, qu'est-ce qui se passe, etc. Et bah, c'est juste qu'on est un petit peu en train de chercher à vivre ce que la parole de Dieu nous dit. Pour ceux d'entre vous, peut-être pour qui c'est complètement nouveau, vous vous dites, je vois pas, je comprends pas, je saisis pas comment, enfin, pourquoi on a différentes personnes comme ça qui interviennent et pourquoi on se laisse conduire par le Saint-Esprit plutôt que d'avoir nécessairement quelque chose de super bien ficelé qui suive un fil conducteur. Il y a un film avec lequel j'ai grandi qui s'appelle Hook. On va regarder un petit extrait. on va regarder un extrait de Hook. Juste pour poser le contexte alors que la vidéo se prépare. On a Peter Pan qui a grandi. Et Peter Pan, quand il est devenu adulte, il a oublié qu'il était Peter Pan et il a oublié tout ce que Peter Pan savait faire, voler, se battre contre le capitaine Crochet, enchaîner des insultes pas possibles pour mettre à l'amende tous les autres enfants perdus qui étaient avec lui. Et on a ce moment dans le film où Peter commence à s'intégrer un tout petit peu à sa nouvelle vie. Il est devenu adulte, mais il est reparti dans le... Comment ça s'appelle déjà ? Le pays imaginaire ? Neverland, ouais. Le pays imaginaire. Il est retourné au pays imaginaire. Et donc, il est dans le pays imaginaire, il est grand, il est adulte, il ne sait plus qu'il est Peter Pan, mais il commence petit à petit à s'en rendre compte. Et il se trouve qu'ils sont autour d'un repas. Et donc, Peter commence à se dire, mais il n'y a rien sur l'assiette. Et après, il y a quelqu'un, des enfants perdus, qui commence à lui balancer des vannes. Et petit à petit, Peter se prend au jeu et en entrant dedans, il commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose de bien plus qui se joue que ce qu'il voit uniquement avec ses yeux. Donc, je vous invite à regarder cette super scène de ce super film qui a bercé mon enfance. C'est comment c'est bon. Et ce qui se passe dans cette scène, c'est qu'on a Peter Pan qui d'un seul coup s'éveille à une réalité de laquelle il n'avait pas conscience jusque-là, en fait. Et dans ce film, c'est l'imagination, bien sûr. On n'est pas en train de parler d'imagination. On est en train de parler de placer sa foi dans le fait que Dieu existe. Dans le fait que Dieu est Dieu, dans le fait que Dieu a envoyé son esprit sur son Église pour agir au sein de son Église. La foi chrétienne est ancrée dans quelque chose de miraculeux. Que Jésus-Christ lui-même est venu en chair, qu'il a vécu sur la terre, qu'il est mort crucifié sous Ponce Pilate, d'une vraie mort physique, clinique, médicale. Et le troisième jour, il est ressuscité, de façon véritable, physique. Mais surnaturel. Il est le premier né d'entre eux, les morts. La résurrection de Jésus est le point tournant de l'histoire. Et alors que tellement d'autres religions sont basées sur une révélation que quelqu'un a eue dans une caverne ou sur une montagne tout seul, pour que ta vie spirituelle ait un petit peu plus de sens. Le message du christianisme est que des personnes ont vu Jésus mourir physiquement sur la croix et ressusciter physiquement trois jours plus tard. Ça a été fait en public, pas dans une caverne ou sur une montagne. Ça a été fait devant tout le monde. Et ça a été fait dans la vraie vie. Pour pas seulement transformer un petit peu, donner un peu plus de sens à ta relation avec Dieu, mais donner plus de sens au monde tout entier. Avoir une vision qui est complètement transformée sur le fait que nous ne sommes pas seulement faits de chair et d'eau, mais nous avons une composante spirituelle. Et qu'il y en a un qui règne en maître sur tout cet univers, le spirituel et le physique. Il s'appelle Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Et il a envoyé son esprit sur son église pour que son église vive dans le surnaturel de Dieu. Vive non seulement dans la vraie vie et impacte la vraie vie et fasse une vraie différence en faisant du bien autour d'eux, en prenant soin des pauvres, en nous aimant les uns les autres, mais aussi que nous vivions le surnaturel de Dieu dans l'église. Les dons spirituels sont là pour ça. Et si ça peut sembler un petit peu étrange, un rassemblement de croyants qui se mettent vraiment à l'écoute du Seigneur et qui cherchent à le vivre, c'est pas anormal au vu du message qui est celui du christianisme. Donc, quelques éléments maintenant de définition. De quoi est-ce qu'on parle ? Parole prophétique. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot ? Prophétiser, c'est communiquer un message de la part de Dieu. C'est dire dans telle et telle situation, dans tel et tel contexte, pour telle et telle église, pour telle et telle personne, voici la perspective de Dieu en cet instant dessus. Et donc c'est alors que parfois on ne comprend pas qu'est-ce que Dieu veut et là où Dieu va. C'est revenir et simplement dire voici la perspective de Dieu. Parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est la révélation d'une réalité qu'il serait impossible de savoir par des moyens humains. J'ai aucun moyen de le savoir à part le fait que le Saint-Esprit me l'a communiqué. Connaissance. Hein. Connaissance de quelque chose qui m'était inconnu et qui devrait m'être inconnu par des moyens humains. Parole de sagesse. C'est un message qui répond à la question « Que faire ?» dans une situation précise. La sagesse, c'est du concret. La sagesse, c'est qu'est-ce que je fais ? Comment j'agis concrètement dans cette situation ? Une parole de sagesse, c'est quand le Saint-Esprit nous révèle quelque chose sur le qu'est-ce que je devrais faire dans cette situation. Mais ce n'est pas seulement du bon sens sanctifié. Ça comporte un aspect surnaturel dans la portée de ce qu'on va emmener. C'est parfois à contre-courant de ce qu'on penserait par une sagesse humaine. Ou bien c'est surnaturel aussi dans son timing. Tu pouvais pas savoir à quel point ce que tu me dis là me parle dans ma situation précise, là où je suis et là où je vais. Et enfin, le discernement des esprits. Savoir si quelqu'un agit selon un esprit saint S-A-I-N et saint S-A-I-N-T ou si c'est selon un esprit qui est malsain, voire même satanique. Ces quatre dons qui sont mentionnés dans la liste de 1 Corinthiens 12 qu'on a lu sont ce qu'on appelle, ce qu'on catégorise, ce qu'on appelle les dons de révélation. Dieu nous révèle quelque chose de façon précise, de façon spirituelle, de façon surnaturelle. Quelques précisions maintenant. Je veux d'abord dire pastoralement, l'exercice du ministère prophétique dans l'Église est quelque chose qui nous ouvre et qui nous expose à des risques de manipulation. Juste récemment, j'ai malheureusement lu des témoignages concernant ce qui commence à être appelé sur Twitter, enfin maintenant ça s'appelle X, les Google Prophets. En gros, des gens qui vont dans une conférence, qui regardent qui sont les personnes qui se sont inscrites, font des recherches Google sur eux, sur Facebook, et apportent des soi-disant paroles de connaissance en disant des choses sur ces personnes qui n'ont pas du tout apprises via le Saint-Esprit. Donc ça, c'est un cas absolument extrême, mais soyons vigilants à ça, soyons ouverts au fait que des personnes cherchent à faire une contrefaçon de l'action de Dieu. Soyons vigilants par rapport à ça. Et en même temps, la manipulation peut s'exercer d'autres manières. Si par exemple, je reçois authentiquement quelque chose de la part de Dieu, je peux venir et chercher à te l'imposer. Or, un don spirituel, c'est exactement ça, c'est un don. Quand est-ce qu'on a fêté l'anniversaire de Ruth hier et puis admettons que j'étais venu avec quelque chose qu'elle n'aurait absolument pas aimé et je lui dis « mais son anniversaire, il faut que tu le prennes !» C'est pas un don, c'est pas un cadeau, c'est un fardeau. Et parfois, la façon dont on apporte les dons spirituels peut être apportée comme un fardeau. C'est une façon d'exercer une emprise et de la manipulation et le coucher avec un langage spirituel. Faisons très attention à ça. Un don spirituel, c'est je pense avoir reçu quelque chose de la part de Dieu, et c'est je te l'offre, c'est à prendre ou à laisser. Tu peux le prendre si tu veux, tu peux ne pas le prendre si tu ne veux pas, c'est toi et tu restes libre là-dedans. Deuxièmement, le risque de manipulation, le risque d'égarement, le fait qu'on soit tellement focalisé sur les choses d'ordre surnaturel qu'on oublie de rester dans un ancrage au niveau de la vérité de la parole de Dieu. Comme j'ai dit, la prophétie c'est quoi? C'est communiquer un message de la part de Dieu, donner la perspective de Dieu dans une situation. Or, la perspective de Dieu nous a été donnée de façon ultime, de façon parfaite et de façon pleine dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est lui qui nous dirige par sa parole en premier lieu. Faisons très attention à ne pas laisser une soi-disant révélation nous conduire dans un égarement loin de ce que Dieu dit de façon claire, de façon nette, de façon évidente dans la parole, dans la Bible. Et troisièmement, le risque de déresponsabilisation. Lorsqu'on exerce le prophétique dans l'Église, il y a un risque à ce qu'on dise « moi, je ne vais plus prendre de décision dans ma vie, je vais attendre que quelqu'un prophétise et ce sera ma décision. » Non, si quelqu'un t'apporte une parole, tu restes toujours responsable de dire « est-ce que je le prends ou est-ce que je ne le prends pas ?» Même si c'est un des responsables de l'Église, nous restons toujours responsables de nos actes, nous restons toujours responsables de nos choix. Et c'est très très important que la façon dont on exerce le ministère prophétique et les dons de révélation soient faits d'une façon qui maintienne toujours les personnes en position de responsabilité. Tu es responsable, tu es un adulte, je suis un adulte, je parle à un adulte. Et que cette posture d'adulte, si nous l'avons tous et que nous l'arborons tous dans l'Église, on minimise de façon énorme les risques de manipulation. Faisons donc bien attention. Et en même temps, le ministère prophétique authentique existe. La Bible en parle, la Bible en montre des manifestations encore et encore. Il est déjà tard, il est déjà 12:30, j'ai déjà beaucoup parlé de nourriture pendant cette prédication, donc tout le monde a faim. Donc je ne vais pas prendre le temps de raconter énormément de témoignages. Mais le ministère prophétique authentique existe, où Dieu révèle à des membres dans son peuple sa volonté, où Dieu révèle des situations sur la vie de quelqu'un. Il n'y avait aucun moyen de le savoir d'autre manière, mais Dieu agit surnaturellement. Il le fait de façon surnaturelle et en même temps, il ne nous dérobe pas de la réalité du naturel dans lequel nous vivons. Parfois, ça va être, je vais avoir une parole qui sera, je crois, authentiquement une parole de connaissance et en même temps, c'est pas totalement dénué de ce que je vois avec mes yeux. Et donc, trouver la ligne entre dire ça, c'est quelque chose que je sais sur toi. Et en même temps, là-dedans, j'ai l'impression que Dieu veut venir et il veut te dire ceci. Et donc, c'est pas totalement. Enfin, le naturel et le surnaturel ne sont pas des aspects totalement divorcés, mais au contraire, qui sont bien souvent imbriqués. D'où le fait que Jésus lui-même, qui était le Dieu de l'univers, on ne peut plus spirituel, soit venu comme un homme sur la terre. Le naturel et le surnaturel sont mariés dans la vision biblique plutôt que radicalement divorcés. Et la volonté de Dieu n'est pas justement de conduire à un stade dans lequel tous les chrétiens sont tellement surnaturels, tellement spirituels qu'ils n'ont aucun impact dans le monde. Et la vision de Dieu n'est pas tous de nous emmener dans des nuages. La vision de Dieu, c'est que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et donc, c'est que la réalité de Dieu et la réalité des hommes soient mariées de plus en plus en plus pour que notre réalité terrestre soit transformée par le surnaturel de Dieu. Ne divorçons pas ces choses, ne devenons pas super spirituels, ne devenons pas excessivement spirituels, mais plutôt que ces deux choses, que dans le monde naturel, on puisse vivre le surnaturel de Dieu et que le surnaturel de Dieu, on le vive de façon naturelle. On ne prend pas une voix bizarre quand on se met à prophétiser. On se met pas dans un mode spécifique quand on se met à prophétiser. Nous pouvons rester humains, nous pouvons rester nous-mêmes, maîtres de nos paroles, maîtres de ce que nous faisons et de ce que nous disons lorsque on exerce les ministères, les dons de révélation. Quelques critères de discernement. Quelqu'un t'apporte une parole prophétique, gloire à Dieu, merci Seigneur. On veut voir les dons manifestés dans l'Église. Quels critères de discernement pour savoir est-ce que c'est juste, est-ce que c'est quelque chose sur lequel je peux potentiellement mettre du poids, est-ce que c'est quelque chose auquel je peux accorder du crédit et avancer avec ces paroles. Première chose, on l'a déjà dit, si une parole prophétique est authentique, alors une parole prophétique est biblique. Une parole prophétique sera conforme à ce que disent les Écritures. Si quelque chose que quelqu'un apporte est en contradiction avec ce que Dieu nous a déjà dit, le Saint-Esprit ne ment pas et le Saint-Esprit ne se contredit pas. Donc, extrêmement important. Et d'autant plus important, et je pense qu'un des risques dans nos églises charismatiques, c'est que parfois on n'est pas aussi calé au niveau de notre connaissance des Écritures. Mais c'est d'autant plus important qu'on soit calé dans notre connaissance des Écritures, que nous voulons entendre le Seigneur et nous voulons nous laisser conduire par le Seigneur au quotidien. Ce serait un risque énorme d'avoir nos voiles tendues extrêmement haut pour dire à tout le vent du Saint-Esprit, dès que tu souffles, je veux être en mouvement. Et qu'en même temps, il n'y ait personne qui soit à la barre. Hein? Avoir nos mains fermement sur la barre du bateau, c'est avoir une connaissance profonde de la Bible, de la parole de Dieu. Et en même temps, quelle tristesse d'avoir les mains rudement sur le gouvernail, mais les voiles totalement fermées à ce que Dieu veut faire par son esprit. Ayons les deux. Il faut que ce soit biblique. Deuxièmement, il y a une cohérence. Hein, Dieu agit en cohérence avec lui-même. Il agit en cohérence avec là où il va. Hein. Et donc, de temps à autre, Dieu peut venir et il peut agir de façon un peu dérangeante, disruptive. On pensait qu'on allait par là et Dieu vient et il dit non, je vais complètement vous réorienter. Mais même là-dedans, il y a une cohérence entre les choses que Dieu nous a dites par le passé et les choses que Dieu nous dit pour l'avenir. Il y a une cohérence avec notre vie et il y a une cohérence avec ce que Dieu a déjà mis dans mon cœur. C'est quelque chose qui est d'autant plus vrai, le plus une parole a trait à une vraie décision de vie. Peut-être que quelqu'un est venu vous voir et vous a dit « J'ai vraiment le sentiment que Dieu est en train de vous appeler à une nation précise. » Peut-être même que c'est quelque part dans le coin de l'Amérique centrale. J'ai l'impression de recevoir ça. Je te le soumets, c'est à toi d'en évaluer. Et si c'est quelque chose auquel tu n'as jamais pensé avant dans ta vie, je pense que tu peux dire « Bon, bah, je le prends, je le mets dans ma poche. » Si jamais ça ressort, que ça revient 2, 3, 4 fois, ou sinon, grâce à cette parole, Dieu commence à nourrir en moi une vision, une passion, un désir pour ça, alors oui, il peut y avoir une cohérence. Peut-être que c'est la première graine qui ensuite va germer. Ou peut-être que c'est, et bien plus souvent c'est ça, c'est Dieu qui vient arroser une graine qui est déjà là, qui vient confirmer quelque chose qui était déjà dans ton cœur. Donc cherchez une cohérence, cherchez une confirmation avec ce que vous ressentez, une cohérence, une confirmation avec ce que d'autres disent et font dans l'Église est profondément important. Dernière chose, 1 Corinthiens 14, verset 3 est très très clair sur à quoi ressemble la parole prophétique, à quoi ressemble la prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 3, « Celui qui prophétise » encourage, réconforte et édifie. Si quelqu'un t'a apporté une parole soi-disant prophétique et qu'elle ne t'a pas encouragé, édifié, consolé, tu peux très facilement dire « Bon, bah, je l'ai fait passer au crible d'un Corinthiens 13 et c'est pas passé. C'est pas juste. C'est pas biblique. C'est pas de Dieu. » Pourquoi ? Parce que quand on lit l'Ancien Testament, on voit des prophètes qui prophétisent d'une façon qui semble absolument pas être encourageante ou réconfortante. Absolument pas. Mais ce que j'ai dit au début, c'est que celui qui prophétise nous donne la perspective de Dieu sur une situation. Dans l'Ancienne Alliance, les prophètes étaient ceux qui gardaient le peuple de Dieu dans l'Alliance de Dieu qui était une alliance de loi. Dieu qui avait dit « voilà les critères » très précis. Si vous suivez ces critères, si vous êtes fidèle à moi, alors je vous bénirai. Si vous ne suivez pas ces critères, que vous y désobéissez, alors moi aussi je m'opposerai à vous. Voilà les termes de la loi de l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, grâce à l'œuvre de Jésus, est venu. Et il a accompli la loi. Il a accompli la volonté de Dieu. Et maintenant l'alliance dans le Nouveau Testament, n'est plus une alliance conditionnelle, fais ceci et je ferai cela, fais cela et je ferai ceci, mais plutôt un testament. Un testament ne va pas dépendre que mes enfants se comportent bien pour qu'ils en bénéficient. Un testament ne dépend que d'une seule chose, c'est que je meurs. Et celui qui est, dont le nom est marqué sur le testament reçoit. Jésus-Christ est mort pour que nous puissions bénéficier de tout ce qui était marqué sur ce testament, de cette alliance, de la promesse de Dieu pour nous. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, enfant adopté, nous devenons plus en plus conformes à lui. Bien sûr que l'obéissance est importante. Mais la perspective de Dieu sur nous passe à travers le filtre de la croix dans lequel Jésus-Christ a pris tout notre péché sur lui. Et sur lequel la condamnation a été prise sur lui pour que nous ne soyons pas condamnés. Et donc le regard de Dieu sur toi aujourd'hui, si tu es en Christ, sera peut-être un regard pour te dire « il y a des choses dans lesquelles je veux que tu grandisses, des choses dans lesquelles je veux que tu avances, des choses dans lesquelles je veux que tu t'améliores ». Mais c'est toujours depuis une perspective de la grâce parfaite de Dieu sur toi, de la non-condamnation qui existe sur ta vie. Quand Dieu te regarde, peuple de Dieu, entendez ça, quand Dieu te regarde, il n'a pas le sourcil froncé. Quand Dieu te regarde, il te voit à travers Christ. Tu es vêtu de Christ et il te regarde comme il regarde Jésus. Est-ce que Dieu a du déplaisir? Est-ce que le Père a du déplaisir quand il regarde le Fils? Non, il n'a que du plaisir. Quand il te regarde, voilà comment il te considère. Amen. Ça, c'est une profondément, profondément bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce qui se passe très concret? J'ai l'impression de recevoir quelque chose par rapport à quelqu'un. Allez, je vais trouver un nom imaginaire qui n'est pas présent. Bon, ça, j'ai que des noms de personnes dans l'église qui me viennent parce que vous êtes tous devant moi. Il n'y a pas de Julien dans l'église. Il n'y a pas de Julien présent ici. Ok, on va imaginer un certain Julien. Désolé. Jules alors.
Xavier.
Il n'y a pas de Xavier? Non, ok, on va prendre Xavier, ça va être Xavier l'exemple alors. Xavier. Admettons qu'il y a un Xavier dans l'église, et c'est comme si j'ai vraiment l'impression que le Seigneur me parle par rapport à lui, et par rapport potentiellement à une sorte d'habitude avec le mensonge dans sa vie. Comment est-ce que j'apporte ça d'une façon qui est encourageante, édifiante et réconfortante? Pas facile, hein? Peut-être que. Une façon de le faire. Et on garde tout ce que j'ai dit précédemment. Je la porte avec la paume de la main. Je la porte comme si... j'ai pas pleinement raison. C'est pas sûr que ce soit authentiquement de Dieu. Peut-être que je me trompe. C'est un cadeau, pas un fardeau. Peut-être que je pourrais dire, Xavier, je suis en train de prier pour toi et j'ai l'impression que Dieu veut vraiment t'appeler dans cette prochaine saison à grandir de plus en plus en plus dans le fait d'être quelqu'un de radicalement véridique, de radicalement vrai. Peut-être qu'en l'apportant comme ça, si le Saint-Esprit veut donner une conviction à Xavier, il le fera. Mais la conviction de péché qui vient du Saint-Esprit est toujours accompagnée d'espérance, alors que l'accusation qui vient de l'ennemi est toujours remplie de désespoir. C'est genre, l'ennemi va te dire « Ah, tu vois, t'as encore menti !» Et t'es là genre « Je ne mérite pas la présence de Dieu. Oh, je suis un chrétien mauvais !» Oh, je suis un chrétien défaillant. Alors que le Saint-Esprit va te dire, t'as un truc avec le mensonge et je veux que tu grandisses. C'est genre, waouh, merci Seigneur parce que tu me reprends là-dessus. Mais pas seulement tu me reprends, je sais que tu me donnes la puissance et la force pour grandir et pour m'en sortir. Et tu me le dis pour mon bien, pas parce que tu veux me condamner. Donc le crible de 1 Corinthiens 14:3 est vachement, vachement important. Quelques autres choses. Sur comment l'exercer dans l'Église. Première chose, vivre au diapason de Dieu. Comme Rebecca l'avait dit plus tôt, parfois, il y a des choses que vous recevez dans la semaine. Apportez-le le dimanche. C'est pas seulement quand on se réunit le dimanche qu'on veut le faire. Et de temps à autre, j'ai des personnes qui m'envoient des messages en semaine, qui me disent « Nathan, j'ai reçu telle et telle et telle chose. » Génial. Et c'est quelque chose qui est arrivé cette semaine, donc du coup, parce que je voulais le modeler, je voulais demander à Brett, would you come and share? Donc Brett m'a envoyé un message cette semaine en disant, je pense que j'ai reçu telle et telle chose. Et je lui ai dit, j'aimerais bien qu'on puisse le modeler dimanche. Il l'a reçu cette semaine, pas ce dimanche, pas ce matin. Et j'aimerais bien qu'il puisse le partager comme un exemple pour nous. Pas besoin que ce soit reçu le dimanche pour que ça ait du sens.
About 3-4 weeks ago, when I was thinking about coming, I was just thinking I'm going to be visiting Fireplace.
Il y a 3-4 semaines, je réfléchissais au fait que j'allais rendre visite à Fireplace.
And out of the blue, I was reminded of a talk I did for a youth in a youth group about 15 years ago.
Et j'ai eu le souvenir d'une prédication que j'ai fait il y a 15 ans pour un groupe de jeunes.
And I thought, I forgot about it, and then about 2 weeks ago, it came into my mind again.
Et puis je l'ai oublié, et puis ça m'est revenu ensuite.
And in a moment, I'll tell you what it is.
Dans un instant, je vous dirai ce que c'est.
But this week, as I was messaging Nathan about today,
mais cette semaine, alors que j'étais en communication avec Nathan par rapport à ce matin,
he emailed me the questions that I was going for the interview.
Il m'a envoyé un email par rapport aux questions pour l'interview.
And I remember sitting at my desk thinking, God, was that you speaking to me or not?
J'étais assis à mon bureau, je dis, mais Seigneur, c'est toi qui me parlais par rapport à ça ou pas?
And I messaged Nathan and I said, I wonder if God's given me something to share.
Et je lui ai envoyé un message en disant, je me demande si Dieu m'a pas donné quelque chose à partager.
If it doesn't fit in, that's fine, but I don't know, maybe it's from God.
Si ça colle pas, c'est pas grave, mais peut-être que c'est de Dieu.
Because I think God whispers to us and speaks to us way more than we ever realize.
Parce que je pense que Dieu murmure, chuchote, nous parle bien plus qu'on ne s'en rend compte.
And I'm trying to get better at thinking maybe that's you, God, not just me.
J'essaie de m'améliorer dans le fait de me dire peut-être que c'est toi, Seigneur, et pas moi.
This was a talk from 15 years ago.
C'était une prédication d'il y a 15 ans.
And it was about how we so often live our lives focused on ourselves.
Et ça parlait du fait que tellement souvent on vit nos vies focalisées sur moi, sur moi.
And God gave me this little thinking about the cross. He gave me this way of thinking that I think will help you and I need to hear again.
Et c'est comme si Dieu me parlait à nouveau sur une illustration par rapport à la vie, par rapport à la croix de Jésus. Et peut-être que ça vous sera utile.
And it's particularly pertinent with the Easter weekend coming up.
Et c'est pertinent notamment avec le week-end de Pâques qui s'en vient.
So rather than starting with me and myself,
plutôt que de commencer avec moi et moi-même,
we start with who he is.
On commence avec qui il est.
That's why we start and we worship and we focus on him.
C'est pour ça qu'on commence et qu'on contemple qui Dieu est dans la louange alors qu'on se rassemble.
When you wake up tomorrow morning, when I wake up tomorrow morning, it's a good place to start with who he is, not with who I am.
Quand je me réveille demain matin, commencer avec qui il est et pas qui je suis.
So that's the top of the cross.
C'est le haut de la croix.
Then it's what he has done.
Et puis c'est ce que lui a fait.
Can you picture the cross, who he is?
Faut imaginer la croix, qui il est?
What he has done.
Ce qu'il a fait.
He died for us.
Il est mort pour nous.
He purchased us with his blood.
Il nous a rachetés par son sang.
Where we were supposed to die, he died for us.
Là où nous étions supposés mourir, il est mort pour nous.
And after we've thought about who he is and what he's done, then we come to thinking about, in light of that, who am I?
Et alors qu'on a pensé à qui il est et ce qu'il a fait, on peut penser à moi qui je suis.
So who he is, what he's done. Who am I in light of that?
Qui il est, qui je suis, qui il est, ce qu'il a fait, et qui je suis à la lumière de ça.
I'm a son, I'm a daughter.
Je suis un fils, une fille.
I'm loved, I'm accepted.
Adopté, accepté, aimé.
Not because of me, but because of who he is and what he's done.
Pas à cause de moi, mais à cause de lui et de ce qu'il a fait.
And then the final part of it is what's to come.
Et la dernière, c'est donc qu'est-ce qui est à venir, qu'est-ce qui est devant moi.
And I think if we get that into our thinking, who he is, what he's done, who I am, what's to come.
Et donc, je pense que si on en est focalisé sur qui il est, ce qu'il a fait, qui je suis, ce qui est devant moi,
it gets our world the right way up.
Ça réoriente notre monde dans le bon sens.
If we start with ourselves, we'll have a small God.
Si je commence avec moi, j'aurai un petit Dieu.
Let's lift our eyes to him and remember what he's done. We were singing earlier about he's my defender.
On chantait tout à l'heure, il est mon défenseur, il combat pour moi.
That's who we serve today.
Voilà celui que nous servons aujourd'hui.
So I encourage you, if you hear the whispers,
donc je vous encourage, si vous entendez les murmures, les chuchotements de Dieu, peut-être partagez-le avec quelqu'un, disant, je ne sais pas si c'est de Dieu, mais peut-être bien que ça l'est. Je ne savais pas si ça collait ce matin, mais j'ai eu confiance que ça collait, et je veux m'avancer de plus en plus pour suivre ces murmures. Merci Brett. Que si ce que Brett vous a partagé, nous a partagé, vous parle en tant que tel, allez le voir à la fin et peut-être dites-lui, encouragez-le. Dites-lui, ça m'a vraiment parlé. Mais n'en restez pas que avec ça. Donc, vivons au diapason de Dieu. Je vais en revenir au fait et j'essaie d'être très très bref sur mes derniers points. Sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a reçu une parole prophétique. Mais comment on le fait? On reste au diapason de Dieu. Peut-être que Dieu me parle pendant la semaine. Si c'est le cas, c'est peut-être pour l'Église, venons avec le dimanche. Soyons un peuple qui est prophétique. Deuxième chose, veillons au timing. Je pense que c'est vraiment important dans comment on vit dans l'Église. Le Saint-Esprit a une cohérence. Il va quelque part. Quand l'Église se rassemble. Si vous recevez quelque chose et que ça ne colle pas vraiment avec ce que Dieu est en train de dire ou en train de faire dans ce moment-là de la réunion, à travers les chants qui sont chantés, à travers les contributions qui sont apportées, ne l'apportez pas à ce moment-là. Hein, veillez au timing. Si vous voyez que le temps de louange a commencé à se prolonger, que la personne qui préside vient de prendre le micro et qui va reprendre le micro, c'est pas le moment de commencer à apporter autre chose. Veillons au timing pour nous assurer que dans l'Église, les choses se fassent avec ordre, hein, et les choses ne se fassent pas comme une sorte de fouillis et de fourre-tout. Mais grandissons dans la sensibilité à quand est-ce qu'on apporte ce qu'on apporte pour qu'il y ait une cohérence, un fil conducteur et un flot à ce que Dieu va dire. Donc veillons au timing, soyons sensibles là-dedans. Et une dernière chose par rapport à comment l'exercer dans l'Église. Ce truc n'est pas au top de sa forme. Hein. Et donc veillons au ton. J'en ai déjà parlé un petit peu. Mais dans 1 Corinthiens 13, Paul dit « Nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. » Ce que Dieu nous révèle, lui, est parfait. Donc dans ce sens-là, la prophétie n'est pas imparfaite. On a parfois l'habitude de dire ça dans le Nouveau Testament, la prophétie est imparfaite. Ce n'est pas tout à fait exact. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient totalement et parfaitement et entièrement oints par Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus le Christ qui est oint. Et nous participons tous à Christ d'une façon ou d'une autre. Je suis une partie du corps de Christ. Et donc je n'ai pas la pleine onction du prophète. Et personne n'a cette pleine onction. Certains ont un ministère de prophète, très puissant, très développé. Dieu se sert d'eux de façon particulière, extraordinaire en tant que prophète, absolument. Mais aucun être humain dans la Nouvelle Alliance ne peut prétendre prophétiser parfaitement. Et donc, à cause du fait que c'est le cas, on doit veiller à comment on apporte la parole. Dans notre ton, veillons à ce que ce soit évident, hein, que oui, on pense avoir entendu quelque chose de la part de Dieu, mais la façon dont on l'apporte, on n'est pas en train de venir et d'imposer quelque chose aux gens, mais en train d'apporter quelque chose, que selon ce que ça parle aux uns et aux autres, ce soit reçu ou pas. Donc veillons au ton dans la façon dont on l'apporte. Et enfin, comment l'apporter ? Trois petites choses. Distinguons révélation, interprétation et application. En fait, j'ai déjà parlé de dénoter la faillibilité, hein, on peut se tromper. Dans la façon dont on l'apporte, veillons à ce que ce soit évident, hein, qu'on n'est pas inspiré d'une façon pleine et totale, qu'on peut tout à fait se tromper dans comment on l'apporte. Donc veillons à ça. Mais les deux derniers points vont ensemble. Dans le ministère prophétique, souvent les choses se font en trois parties. Il y a une révélation. J'ai reçu une image, peut-être. Ou il y a un texte des Écritures qui me vient. Ok. Peut-être que je peux juste venir à l'église et apporter l'image que j'ai reçue. C'est super, vraiment. Mais c'est incomplet. De juste venir avec une image nous laisse parfois avec « qu'est-ce que je fais avec ça ?» Et peut-être que si je reçois une image, je me pose la question, Seigneur, quelle est l'interprétation de cette image ? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette image ? Ou qu'est-ce que tu veux dire à l'Église à travers cette image ? Une image est une bonne chose, mais un message est bien plus important. Donc, révélation, interprétation. Hein. Et parfois, ce n'est pas moi qui aurai l'interprétation. Mais à ce moment-là, un conseil, alors que j'apporte une image, disons, je n'en ai pas vraiment l'interprétation, ni vraiment l'application, mais voici quelque chose que j'ai reçu de la part de Dieu. Et peut-être qu'à ce moment-là, quelqu'un d'autre dira, je crois que j'ai potentiellement l'interprétation de ce que Dieu voulait dire à travers cette image. Et ça permet à ce qu'en tant que corps, on contribue les uns et les autres, et qu'on soit vraiment, qu'on fonctionne comme un corps. Mais révélation, interprétation et application. Pas seulement « voici ce que j'ai reçu » et « voici ce que je pense que ça veut dire », mais « voilà ce que je pense que Dieu demande de nous en conséquence ». Donc si vous regardez ce que Brett vient de nous partager, l'image, c'est l'image de la croix. Hein. L'interprétation, c'est le sens de ce que toutes ces différentes parties de la croix veulent dire. Et l'application, dans ta vie quotidienne, focalise-toi sur ceci, dans ta vie quotidienne, fais cela. Et là, on a vraiment reçu quelque chose de la part de Dieu et on peut faire quelque chose avec. Et on peut avancer avec. Et le prophétique revêt un sens, revêt du concret. Donc, grandissons dans le fait d'avoir révélation, interprétation et application. Parce que quand Dieu nous parle, ça conduit toujours à une réponse. Ne laissons pas juste Dieu nous parler et que ça reste lettre morte. C'est difficile pour les uns et les autres de savoir que faire avec une parole quand il n'y a pas ensuite interprétation et application. Donc veillons à ce que tous ces aspects du prophétique soient vécus et conduisons à une réponse. Parfois, la réponse est toute simple. Parfois, peut-être que, alors qu'on vient de partager une parole, ce sera, j'aimerais juste qu'on puisse prier les personnes à qui ça a parlé. Peut-être juste mets ta main sur ton cœur ou lève la main pour dire au Seigneur, oui, ça m'a parlé à moi. Je prie, ok, et puis on passe à la suite de la réunion. Peut-être que ce sera un autre type d'application, un autre type de réponse. Peut-être que ce sera la façon de répondre à ça. Ce sera que quand tu rentres chez toi, fais une liste de toutes les choses où Dieu te parle par rapport à tel et tel sujet. Enfin, peu importe quelle a été la parole qui a été apportée. Mais conduisons les gens, conduisons l'Église à une réponse. Pas simplement entendre de la part de Dieu et que ça reste lettre morte, mais que nous soyons des hommes et des femmes qui mettons en pratique la parole de Dieu. Et enfin, question. Merci. Qu'est-ce qui se passe si on a cette culture des dons de révélation dans l'Église? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça déborde? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça aille trop loin? Je ne dis pas le contraire. On a parlé de pas mal de choses qui nous aident à le vivre de façon saine. Un autre principe, c'est que si tu as quelque chose à apporter à quelqu'un, ne l'apporte pas seul. C'est à nouveau quelque chose qui peut créer un risque d'emprise. Mais dire, j'ai quelque chose que je veux partager à John, je vais dire, est-ce que Hélène peut être là aussi? Ou est-ce que Nathanaël peut être là aussi? Pour que je ne sois pas juste là en train d'apporter quelque chose et John ne sache pas quoi faire avec. Mais que John puisse dire à Nathanaël, je t'avoue, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre ce que Nathan a apporté, ça ne m'a pas trop parlé. Nathanaël puisse dire, ouais, en vrai, moi aussi, je n'ai pas trouvé ça super parlant. Je pense que tu peux juste le laisser. Le fait d'avoir une autre personne qui est là nous aide à les vivre de façon saine. On veut tous ces principes qui soient là. Et en même temps, nous voulons vivre la manifestation de la présence de Dieu parmi nous. Donc, si donc, dans une assemblée entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas « vous êtes tous fous » comme Peter Pan? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Et peut-être que vous êtes ici ce matin et vous avez pas du tout de connaissance de Jésus ou pas du tout de connaissance de la vie du Saint-Esprit. Mais s'il y a quelque chose ce matin qui t'a parlé d'une façon ou d'une autre, à travers une des différentes contributions, à travers un des chants, à travers quelque chose que j'ai dit pendant mon message, à travers ce que Brett nous a apporté, peu importe, s'il y a quelque chose ce matin où tu t'es dit « mais ça m'a parlé d'une façon qui était particulière », ne laisse pas ça rester lettre morte, mais réponds au fait que Dieu est ici et que Dieu veut nous parler. Amen.